RFI, il est 1h du matin ici à Paris, 23h en temps universel et 2h à Beyrouth. Et le journal est présenté par Fabrice Legrier. Bonsoir.
Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous, bienvenue. Pas de Vladimir Poutine, pas de pourparlers directs entre la Russie et l'Ukraine, ni ce jeudi, ni ce vendredi. À la place auront lieu dans quelques heures à Istanbul des négociations tripartites et des participants qui ne s'attendent pas à grand-chose. C'est ce que nous verrons dans un instant. L'aide humanitaire va-t-elle enfin pouvoir entrer dans Gaza? Une ONG soutenue par les États-Unis est prête à distribuer cette aide d'ici la fin du mois. Mais il y a des mises en garde, les détails dans ce journal. En Nouvelle-Zélande, trois députés pourraient être suspendus temporairement de l'Assemblée. La raison, ils ont fait un haka en plein hémicycle. Et puis non pas du rugby mais du football, le FC Barcelone s'offre un 28e titre de champion d'Espagne.
RFI.
À la place des pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie qui devaient avoir lieu ce jeudi à Istanbul en Turquie, des réunions tripartites auront lieu ce vendredi. C'est ce qu'a indiqué à l'agence France-Presse une source au ministère turc des Affaires étrangères. Autant dire qu'on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant, Marine de la Moissonnière.
À la place des pourparlers directs, il y aurait au menu de ce vendredi plusieurs réunions entre les États-Unis, l'Ukraine et la Turquie d'une part, et d'autre part entre la Russie, l'Ukraine et la Turquie. On ignore pour l'instant si une réunion à quatre aura lieu, mais ce qui semble clair, c'est que pas grand-chose ne sortira de ces rencontres. Le secrétaire d'État américain l'a admis ce jeudi soir. Les États-Unis n'ont pas de grandes attentes quant à ce qui se passera vendredi, a déclaré Marco Rubio. Il a reconnu que la délégation russe n'était pas au niveau espéré. Vladimir Poutine a envoyé à sa place un conseiller de second plan, preuve selon Volodymyr Zelensky que la Russie ne prend pas ses négociations au sérieux. Le président ukrainien, qui lui non plus n'est pas présent à Istanbul, réponse cinglante de la porte-parole de la diplomatie russe qu'il a traité de clown et de raté, ambiance tendue donc entre les deux camps qui ne préfigure rien de bon. De toute façon, selon Donald Trump, seul lui peut débloquer la situation. Tant que je n'aurai pas rencontré Vladimir Poutine, il ne se passera rien, a-t-il affirmé. Donald Trump qui pourrait se rendre ce vendredi en Turquie.
Voilà, donc je vous le rappelle, des réunions tripartites prévues ce vendredi à Istanbul, mais pas de pourparlers directs. 120 morts, dernier bilan de nouvelles frappes israéliennes sur la bande de Gaza. L'armée israélienne a particulièrement visé le nord et le sud du territoire, des bombardements, des zones dévastées, et selon plusieurs ONG, la menace d'une famine de masse pour les 2,4 millions d'habitants. À Gaza, une nouvelle organisation humanitaire créée avec le soutien des États-Unis pourrait mettre en place un nouveau système d'acheminement de l'aide aux civils affamés, et ce dès la fin du mois de mai, grâce à des accords clés avec les autorités israéliennes. L'ONU annonce qu'elle ne participera pas à la distribution d'aide de cette nouvelle fondation. Alice Froussard, il n'y a que très peu d'informations précises quant à cette fondation et sur son futur rôle dans l'enclave côtière, ravagée par bientôt 20 mois d'attaques israéliennes. Alors que sait-on pour le moment ?
La Fondation humanitaire pour Gaza a été enregistrée en Suisse au début de l'année. Elle se targue d'avoir réuni des experts chevronnés afin de mettre en place ce nouveau système de distribution alimentaire à Gaza. Mais d'après un document destiné aux donateurs et aux États, ses futurs dirigeants sont avant tout des Américains, en partie d'anciens militaires. Aucun n'a de lien apparent avec l'aide humanitaire, ni même d'expérience dans ce domaine. De nombreux défenseurs des droits de l'homme mettent en garde. Le risque existe que cette fondation, à laquelle l'administration Trump a apporté son soutien, puisse contribuer à des crimes internationaux, car elle court-circuite l'acheminement traditionnel de l'aide. Le plan A consiste à nous laisser entrer, insiste Tom Fletcher, le chef des affaires humanitaires de l'ONU. Il n'offre pas non plus de solution claire à long terme, dénonce Mara Bernasconi. Elle est responsable plaidoyer de Handicap International pour les territoires palestiniens occupés.
Ce plan renforce l'occupation plutôt que d'y mettre fin. Et évidemment, il viole l'avis de la Cour internationale de justice qui en exige la fin.
La semaine dernière, lors d'une conférence de presse, l'ambassadeur des États-Unis en Israël l'a lui-même reconnu. Ce nouveau système risque lui aussi d'être confronté à des difficultés. Mais, a-t-il ajouté, le danger, c'est de ne rien faire.
Et cette nouvelle déclaration de Donald Trump, le président américain affirme vouloir que les États-Unis prennent la bande de Gaza pour en faire, je cite, une zone de liberté. Par ailleurs, l'armée israélienne annonce avoir intercepté un missile tiré par les rebelles Houthis du Yémen, rebelles qui affirment avoir visé l'aéroport de Tel Aviv. C'est la troisième fois en trois jours que l'armée annonce une telle interception. L'Inde et le Pakistan ont convenu de prolonger leur cessez-le-feu jusqu'à dimanche. C'est en tout cas ce qu'affirment les autorités pakistanaises. Les deux pays qui s'accusent par ailleurs mutuellement de ne pas suffisamment bien contrôler leur arsenal nucléaire. Le ministère de la Défense indien estime que l'arsenal pakistanais doit être placé sous la surveillance de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le Pakistan évoque de son côté des incidents liés au trafic impliquant du matériel nucléaire et radioactif en Inde. Au Venezuela, la chef de l'opposition Maria Corina Machado appelle au boycott des élections législatives et régionales du 25 mai prochain. Elle promet des bureaux vides le jour du scrutin, près de 10 mois après la réélection contestée du président Nicolas Maduro le 28 juillet. L'opposition revendique toujours la victoire à la présidentielle qui a, selon elle, été entachée de fraude. Le géant pharmaceutique français Sanofi, dont la moitié des ventes sont réalisées aux États-Unis, a annoncé son intention d'investir au moins 20 milliards de dollars outre-Atlantique d'ici 2030. Ce n'est pas le premier laboratoire à dévoiler des investissements conséquents aux États-Unis. Merck, Roche ou encore Novartis ont déjà annoncé de grands programmes d'investissement pour répondre aux attentes de Washington, qui exerce des pressions pour encourager le retour des grands laboratoires sur le sol américain. Donald Trump a notamment annoncé la semaine dernière la baisse du prix des médicaments aux États-Unis. Pour Thomas Rapp, professeur de sciences économiques à l'université Paris-Cité, spécialiste des questions de santé, les laboratoires ont tout intérêt à montrer leur volonté d'investir sur place. Objectif pesé sur de futures négociations avec l'administration américaine.
Les laboratoires doivent faire face à une pression qui est accrue venant de l'administration américaine. Et d'une part, les enjeux en termes de business actuels sont considérables aux États-Unis, qui représentent près de la moitié du business pour les entreprises pharmaceutiques dans le monde. Et donc là, il y a un enjeu de montrer aux autorités américaines que les laboratoires pharmaceutiques sont alignés sur la politique américaine. Et d'autre part, on est aujourd'hui dans une phase de notre histoire médicale dans laquelle il y a énormément d'innovations qui vont arriver sur le marché. Des innovations qui vont cibler à la fois des maladies rares, mais aussi des maladies pour lesquelles on attend des volumes de demandes très importants. Je pense à l'immunologie, aux maladies inflammatoires, à la neurologie, à l'oncologie. Et ces innovations seront lancées en priorité sur le marché américain, qui reste le marché le plus porteur pour l'industrie pharmaceutique. Et c'est dans ce contexte-là, je pense, que les laboratoires pharmaceutiques commencent à préparer les conditions de négociation de prix qui s'annoncent difficiles avec le gouvernement américain.
Et réaction du ministre français de l'économie, Éric Lombard, qui parle d'un mauvais signal et qui aurait préféré que Sanofi prenne une autre décision. ArcelorMittal réaffirme son intention d'investir à hauteur de 1,2 milliard d'euros dans la décarbonation de son site de Dunkerque dans le nord de la France, en investissant dans un four électrique, une manière de couper court aux rumeurs de désengagement de l'industriel en France. Mais il maintient son plan social avec plus de 600 suppressions de postes dans l'Hexagone. En Nouvelle-Zélande, une mesure sans précédent contre 3 députés, ces membres du parti maori pourraient être suspendus temporairement de l'Assemblée pour avoir fait le haka, une danse que vous connaissez, qui est traditionnellement effectuée dans l'arène des stades de rugby et non dans l'enceinte de l'Assemblée. Objectif, protester contre la modification d'une loi sur les rapports entre les Maoris et la couronne britannique. Ils pourraient recevoir une punition particulièrement sévère et symbolique, Nicolas Roca.
Des images qui ont fait le tour du monde et qui pourraient leur valoir une sanction sans précédent. En novembre dernier, 3 députés Maoris interrompaient une séance pour protester contre un projet de loi. L'une des élus déchirait même une copie du texte tout en entonnant un vibrant haka sous le regard de ses collègues. Ce texte visait à modifier le traité de Waitangi, signé il y a plus de 200 ans entre les populations locales et les colons britanniques. Une loi qui aurait pu entraîner la suppression de certains programmes éducatifs pour les Maoris, mais qui n'a finalement pas été adoptée. Cette victoire médiatique et législative pour les 3 élus du Parti de défense des droits des Maoris pourrait avoir un coût. Ils risquent entre 1 et 3 semaines de suspension si le Parlement vote en faveur des recommandations de la Commission. Une peine sévère mais justifiée d'après la Commission par la violence du haka. Une des élues aurait simulé le tir d'un pistolet, geste faisant partie de la danse traditionnelle selon le parti maori. Ce dernier a répondu « Lorsque le peuple de la terre résiste, les puissances coloniales appliquent la peine maximale ».
Nicolas Roca pour RFI. Allez, du football, ça y est, c'est fait. Pour la 28e fois de son histoire, le FC Barcelone est sacré champion d'Espagne. Le club a remporté ce jeudi soir le derby catalan face à l'Espagnol, score final 2-0. Avec 7 longueurs d'avance à 2 journées de la fin du championnat espagnol, eh bien le Barça ne peut désormais plus être rattrapé par son éternel rival, le Real Madrid. C'est la fin de votre journal.